alors évidemment, l'orgueil l'a perdu, et il est devenu dur, il s'est endurci, et c'est l'incrédulité, c'est les ténèbres, c'est le mensonge, c'est l'injustice, c'est la souillure, c'est la tristesse, c'est le trouble, et finalement, c'est l'impuissance. On finit dans l'impuissance. Regardez tous ces grands hommes qui ont fait trembler le monde, ils ont fini dans l'impuissance et dans la honte éternelle. Eh bien voilà, vous pouvez méditer vous-même sur ces traces du Christ. Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Parce qu'il n'a pas seulement pris nos péchés, mais il nous a pris avec lui dans sa mort. De sorte que la mort du Seigneur est notre mort aussi, nous le confessons dans le baptême. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, c'est quel chapitre de l'Ancien Testament qui est cité? Ésaïe 53. Car vous étiez comme des brebis errantes, que nous étions tous, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur est le gardien de vos âmes. Mais nous arrivons à la fin de notre journée, le samedi soir 5 décembre, et nous avons à envisager le chapitre 3 de notre premier épître de Pierre. Nous allons encore demander à Dieu sa grâce et son secours. Ô Dieu, nous voulons te demander que ce soir nous soyons rafraîchis par ta parole, que nous puissions parler par la force que toi tu fournis et que nous ne soyons que l'oracle de Dieu. Nous confessons que nous ne savons rien, que nous ne pouvons rien. Mais nous reconnaissons que tu es tout et que l'entrée de tes paroles illumine pouvant donner de l'intelligence au simple. Donne-nous cette simplicité et donne-nous la grâce de comprendre et de mettre en pratique ce que tu as à nous dire ce soir pour notre vie quotidienne et ta plus grande gloire. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, il y a quelques personnes qui ont posé des questions qui, évidemment, se réfèrent à ces chapitres que nous avons lus, mais j'ai cité peut-être quelques textes que certains ont cherché et n'ont pas trouvé. Par exemple, j'ai parlé du psaume 18e en vous rappelant une parole que mon père aimait souvent à citer quand j'étais jeune. Et dans la traduction d'Arby, et qui était notre version quand j'étais jeune, on lit ceci au verset 43. C'est la version d'Arby qui est 44 de la version second, puisque second compte un verset, les entêtes des psaumes. Alors c'est là qu'il y a la différence. Dans le verset 43 d'Arby et 44 second, il est dit « Tu m'as délivré des débats du peuple ». Ça, c'est la version de d'Arby, qui est la plus littérale. Quant à second, vous avez verset 44, vous l'avez trouvé, peut-être parce que quelqu'un m'a dit qu'il avait cherché, mais n'avait rien trouvé. « fut ma délivrée des dissensions, ou des débats, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Des dissensions du peuple. Mais peut-être que débat est plus exact que dissension. Ainsi, je ne pense pas qu'un chrétien qui veut suivre vraiment le Seigneur avec fidélité doit se laisser embarquer dans toute espèce de mouvement qui ont une certaine valeur morale, mais qui est vraiment humaine et charnelle. Par exemple, vous êtes bien d'accord que un chrétien authentique n'est pas pour l'avortement. Il est contre l'avortement. Mais quant à faire partie d'un comité contre l'avortement, avec toute espèce de personnes qui sont peut-être contre l'avortement, mais qui ne sont pas du tout nées de nouveau, eh bien, je pense que nous avons mieux à faire. Nous avons un témoignage individuel et personnel à apporter dans notre vie quotidienne auprès des femmes qui peuvent être tentées par l'avortement. Tandis que si vous vous mettez dans un de ces grands mouvements, oui, ça fera très bien, on vous donnera une certaine autorité pour parler à ces femmes, vous faites partie du comité qui est contre l'avortement, et puis on vous entraînera à faire peut-être une marche à travers la ville de Montréal. Alors on vous verra avec des pancartes, et c'est là votre témoignage. Vous êtes un homme qui est contre l'avortement, ça c'est bien, n'est-ce pas ? Vous êtes engagé. Mais, mes amis, vous croyez que vous arriverez à convaincre les gens de cette façon-là ? On continuera de faire des avortements. Mais les gens vous regarderont, n'est-ce pas ? Donc, tiens, celui-là, il est contre l'avortement, mais qu'est-ce qu'il fait ? On va vous juger dans sur d'autres points. Je pense que nous avons une lutte différente pour nous les chrétiens que celle que vous voyez dans le monde. Tu m'as retiré des débats du peuple. Je connais des gens qui travaillent contre l'avortement et qui payent de leur personne, tandis que faire une marche, les homosexuels aussi en font des marches. Alors voilà, la marche, il y avait 600 homosexuels qui marchaient à travers les rues de Montréal. Puis on vous demandera aussi de faire une marche contre le sida, ou pour le sida. Mais ça, vous serez toujours dans le vague, dans toutes sortes de liens. Vous ne savez pas où cela va vous conduire. Vous êtes conduit par le Seigneur. Un chrétien authentique, il est évidemment contre l'avortement. Ça ne lui vient pas même à l'idée. Mais alors, oui, il y a des victimes. Eh bien, occupez-vous-en des victimes. D'abord, vous êtes responsable de celles que vous connaissez, qui sont susceptibles. Et c'est peut-être dans votre premier groupe de connaissances que vous avez une responsabilité. Tandis que en vous mettant dans un grand mouvement, avec des rencontres, des comités, des discussions à n'en plus finir, c'est pas là que vous travaillerez vraiment contre l'avortement. Tu m'as retiré des débats du peuple. Et dans le témoignage chrétien aussi, on vous dit qu'il vous faut vous mettre du meilleur parti politique. Quel est le meilleur parti politique ? Le moins pire, oui. Le pire. Quel est le parti politique qui tient ses promesses ? N'est-ce pas ? Notre politique, et nous avons une politique, mais c'est une politique du ciel. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Un ambassadeur n'a pas le droit de se mêler de la politique du pays dans lequel il représente son pays. Alors voilà quelque chose qui pour moi est capital. Alors, nous sommes des citoyens, des bons citoyens, nous sommes engagés à un témoignage, nous payerons nos impôts, nous serons soumis aux lois, nous serons des modèles, des exemples, n'est-ce pas? Mais quant à nous mettre dans la politique, on vous dit, oui, mais Joseph, il était le chef de l'Égypte, et Daniel, oui, après quelle campagne électorale? Quelle campagne de salissage? Hein? Joseph, il sortait d'où? De prison. Et Daniel, c'était un captif. Et c'est le Seigneur qui leur a donné ces positions. Alors, je crois que le Seigneur peut vous donner une position, mais ce ne sont pas les hommes qui vont vous placer là. Soyez fidèles, et peut-être que le Seigneur vous donnera des responsabilités. Et alors vous serez dans la voie du Seigneur, et non pas dans toutes ces compromissions. Parce que si vous faites partie d'un gouvernement, vous faites partie du gouvernement tout entier. Et si ce gouvernement est corrompu, vous êtes aussi vous-même corrompu. J'ai un enfant spirituel qui a été converti au refuge dans notre communauté que nous avons fondée il y a 36 ans et à laquelle je suis toujours rattaché, qui est une assemblée très vivante par la grâce de Dieu, mais qui est en Europe. Eh bien, il y a eu plusieurs conversions d'intellectuels pendant notre ministère là-bas, et un d'entre eux en particulier est devenu le vice-président de l'État malgache. Il a été ministre des Finances et tout ce que vous voulez. Eh bien, il m'écrit encore, parce que quand le gouvernement est tombé, eh bien, c'est un gouvernement socialiste, presque communiste, qui a pris la suite. Il a été en prison. Mais on l'a lavé après 14 mois de prison, on l'a lavé de tout soupçon. Parce qu'il avait été droit. Mais il m'écrit encore, il me dit, Gaston, jamais plus je ne ferai de la politique, parce que le pouvoir, il corrompt. Et puis, si vous n'êtes pas corrompu vous-même, les autres sont corrompus. Et vous êtes dans le même paquet. Comprenez-vous? Nous avons autre chose. Et il aime à parler du retour du Seigneur et à prêcher le retour du Seigneur. Nous avons une autre vision, nous avons une autre tâche. Et si vous êtes à l'écoute du Seigneur, votre gouvernement, il est dans le ciel. Et vous représentez votre gouvernement sur la terre. Vous avez toute une tâche, et ça ne veut pas dire que vous n'accomplissez pas vos devoirs si vite. Comprenez-le bien. Vous pouvez faire autrement. Je ne vous mets pas sous la loi, mais je vous dis ce que je crois avoir compris. Pour moi-même. Et il y avait encore une autre question qui a été posée, c'est au sujet du mariage. Que l'apôtre Paul semble dire que si on se marie, on aura des tribulations dans la chair. Et quelqu'un est un peu préoccupé par ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans le contexte du chapitre 7 des Corinthiens, on a étudié cela dans la retraite passée, l'apôtre Paul nous montre que nous arrivons dans des temps difficiles. Il y avait déjà des temps difficiles au jour de l'apôtre Paul, il y en a aussi aujourd'hui. Alors, il donne lui-même ce conseil, parce qu'il dit, si vous vous mariez, ben vous faites bien, mais si vous avez reçu une certaine grâce, la grâce du célibat, et que vous pouvez dominer aussi vos sens, que vous êtes maître aussi de vos sens, eh bien, peut-être que vous faites mieux de ne pas vous marier, parce que celui qui se marie, eh bien, il faut qu'il s'attende à avoir des tribulations dans la chair. Mais c'est très clair. Car quand on se marie, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Des enfants. Hein, parce que, en tout cas, moi, je bénirai pas un mariage quand on vient de me dire, n'est-ce pas, je veux me marier, mais je veux pas d'enfant. Ça, c'est pas pour moi, alors.
N'est-ce pas? Alors, mes amis, si vous vous mariez, vous aurez peut-être des enfants. Et puis, quand il y a des enfants, il y a des maladies. Et si vous avez une occupation, vous devez vous séparer de votre épouse à cause de votre travail, il y aura aussi des épreuves, ça sera aussi une épreuve. Tout à coup, vous serez dans un autre pays et vous recevrez un télégramme que votre femme est mourante. C'est des choses qui vont arriver. Alors, Paul, qui est un homme transparent, nous l'a dit. Tu veux te marier, c'est bien, mais envisage que tu auras aussi des tribulations, que ça n'ira pas tout seul, que, oui, ta femme est belle, elle est jolie, elle est tout ce que tu veux, elle te plaît, mais dans peu de temps, il y a peut-être un accident qui la guette aussi. Et alors, qu'est-ce que tu en feras? Est-ce que tu l'aimeras? Vous avez dit en vous engageant pour les bons et les mauvais jours. Mais vous devez savoir que dans le mariage, il y a aussi des mauvais jours. Alors, c'est à vous de savoir. Si vous acceptez ces tribulations, eh bien, mariez-vous. Mais ne pensez pas que le mariage, eh bien, c'est le paradis. Pas le paradis, non. Ma femme peut vous le dire. Ça me fait penser à un vieux pasteur que j'ai beaucoup aimé, qui est mort à 90 ans, et qui me racontait un jour, il me disait qu'il soignait sa femme, qu'il avait soigné sa femme jusqu'au dernier moment. Il disait, vous savez, un pasteur, on n'a pas toujours du beurre sur les épinards. Des fois, la vie était un peu difficile. Mais je m'étais bien préparé. J'avais fait des économies parce que je me disais, ma femme qui m'a donné mes enfants, si elle devient malade, je veux la soigner aux pommes. C'était son expression. Je ne sais pas si ça se dit ici au Québec, mais en Suisse, il voulait soigner sa femme jusqu'au dernier moment et il voulait qu'elle soit soignée aux pommes. Bon. Alors, évidemment, il me racontait une histoire. Là, c'était dans une grande conférence, on dînait ensemble. Il disait, vous savez, hein, pour la soigner, je devais lui mettre son corset, vous savez ce que c'est un corset de femme? Alors, c'était difficile d'accrocher tout ça pour ma femme. Et elle trouvait que j'allais pas assez vite. Puis je lui disais, mais tu sais, c'est compliqué ça, j'ai pas l'habitude. En tout cas, je lui ai dit à ma femme, tu sais, Ève, elle n'avait pas ce machin-là. Et il me dit, ma femme m'a répondu du tac au tac, en tout cas, tu sais, avec toi, je suis pas au paradis. Il avait 90 ans quand il m'a raconté ça. Il avait encore toutes ses boules, comme dit ma femme. Et il savait rire. Sa femme était morte, n'est-ce pas? Mais il me disait comment il avait soigné sa femme jusqu'au bout, et que même c'était une difficulté d'accrocher son corset. Il n'y avait pas la gaine scandale de ce temps-là. Voilà, ça vous a un peu détendu. Il y a des tribulations dans le mariage. Il y a un toit du corset. Alors, on arrive quand même à... Oh, on n'est pas sorti trop du sujet, je crois. Mariez mes beaux femmes. On retombe sur nos pieds. Voilà. Femmes, soyez de même soumises à votre mari. Pourquoi de même? Parce que on a vu dans le chapitre 2 qu'il était question d'être soumis à qui? Aux autorités. C'est vraiment la lettre de la soumission. Nous devons être, comme citoyens, soumis aux autorités, parce que nous reconnaissons que les autorités ont été données par Dieu, c'est un principe divin. Et puis, ensuite, les serviteurs doivent être soumis à leur maître. Et maintenant, alors, il y a une troisième soumission, c'est la femme. Les femmes aussi doivent être soumises à qui ? À leur mari. Non pas parce qu'elles leur sont inférieures, mais parce que c'est l'ordre de Dieu. Et si vous lisez le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, nous l'avons étudié lors de notre dernière retraite, eh bien, nous voyons qu'il y a une hiérarchie. Le chef de Christ, c'est qui ? C'est Dieu. Et le Christ est soumis à Dieu. Le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Mais c'est l'ordre de Dieu avant la chute. C'était un ordre divin. Et vous ne pouvez pas renverser cet ordre-là sans amener de la confusion. Et si on respecte la parole, quel que soit le temps, eh bien, nous sommes bénis. Et pour quelqu'un qui est authentiquement chrétien, qui est soumis à Christ, eh bien, il admet aussi la soumission, ou la femme admet la soumission à son mari, si elle est mariée. Mais si vous ne voulez pas être soumis à votre mari, qu'est-ce qu'il vous faut faire ? Ne vous mariez pas ! Finissez-en avec vos idées de mariage. Et puis alors, vous n'avez pas besoin de vous soumettre à votre mari. Il n'y a pas de mari. Alors, vous serez votre chef. Mais si vous êtes célibataire, vous aurez comme chef qui ? Le Christ. Et voilà, le Christ est mieux que ton mari. N'est-ce pas ? Ne compliquez rien. Vous êtes libre. Personne ne vous oblige de vous marier. Mais si vous vous mariez, eh bien, acceptez l'ordre divin. Et vous serez béni. Vous pouvez en être certain. Et voilà, alors, il est dit qu'il faut être soumis à des maîtres, même ceux qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas doux, qui ne sont pas aimables, qui n'ont pas un bon caractère. Ici, il faut être soumis à un mari, même s'il n'est pas un croyant. Et je pense que c'est une grave erreur qu'il y a eu au Québec, et pas seulement au Québec, mais ailleurs. Des femmes ont voulu dominer tout de suite leur mari, mais elles se sont converties, elles, puis elles ont tout de suite voulu que leur mari se convertisse. Et elles les ont assassinées avec la Bible. À coup de versets bibliques, elles voulaient les convertir. Il fallait absolument que le mari les suive. Et ça, c'était une grande erreur. Il fallait qu'elles montrent d'abord par leur vie le changement qui était dans leur cœur, qui avait été opéré dans leur cœur. Et ce témoignage vivant, mais peut-être silencieux, cette acceptation des souffrances que le mari la rabroue, eh bien, de voir que sa femme acceptait même sa mauvaise humeur et ses jugements, et qu'elle restait dans la soumission, pouvait gagner le mari. Et l'heure étant venue, le Seigneur pouvait toucher le cœur de cet homme. Et c'est arrivé bien souvent. Alors, ces versets restent vraiment des versets essentiels pour le témoignage d'une femme qui est chrétienne, mais qui aurait son mari et qui ne serait pas encore au Sauveur. Cela pouvait être une femme juive qui avait accepté l'Évangile alors que son mari juif n'acceptait pas encore la parole. Ça pouvait être une païenne qui avait reçu le Seigneur et son mari était encore païen. Comprenez-vous ? Alors, comment amener cet homme à la fois par sa conduite et sans parole. Le mari peut être gagné sans parole. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture c'est l'apôtre Pierre, qui était lui-même un homme marié. Il savait de quoi il parlait. Et la femme, eh bien, si elle est un exemple pour le mari peut être touché en voyant la manière de vivre de sa femme, chaste et respectueuse. Ne pas manquer de respect même à l'égard d'un mari qui n'est pas converti. Et rester justement dans cette humilité, dans cette confiance. La femme a affaire avec son Seigneur. Et elle est avec son Seigneur, et c'est parce qu'elle est avec son Seigneur qu'elle a un témoignage, et le mari finalement remarque que la vie de sa femme est transfigurée et changée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits que l'on revêt. Il y a des femmes qui pensent qu'elles vont gagner leur mari simplement par leur extérieur. Bien non, ce n'est pas cela qui va compter premièrement, c'est la parure intérieure, cette vie cachée dans le cœur, cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est d'un grand prix devant Dieu, mais ça sera aussi d'un grand prix pour le mari. Il appréciera tôt ou tard. Et l'exemple, verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et nous avons un nom qui nous est donné, Sarah, dont vous connaissez l'histoire. Elle a eu aussi ses fautes, mais là, elle nous est présentée comme un exemple au point de vue conjugal. Elle a accepté de quitter son pays et sa parenté quand Abraham est venu lui dire qu'il avait rencontré Dieu, et elle a partagé sa foi et sa vie et ses marches de foi d'étape en étape. Ainsi se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Sarah a partagé l'espérance de son mari dans la réalisation des promesses que Dieu lui avait faites. Et elle obéissait à Abraham, elle appelait même son Seigneur. C'est pas difficile quand on est. Et alors, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. C'est donc toujours la conduite qui est mise en avant. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur ces textes. Vous comprenez ce qu'ils veulent dire. Et vous ne devez vous laisser troubler par aucune crainte. En particulier, si vous êtes dans ce cas-là d'avoir un mari inconverti, n'ayez aucune crainte. Le Seigneur l'amènera. Quand le salut est entré dans un cœur, il est aussi entré dans la maison. Mais alors, sachez que vous êtes peut-être appelé à souffrir. Ça, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas à souffrir. Mais est-ce qu'il ne vaut pas la peine de souffrir pour que le mari en arrive à se convertir? Mais j'ai vu une femme qui a tout souffert, mais qui était assurée. J'étais sur ses genoux quand elle me disait: en papa se convertira. Peut-être que je ne le verrai pas, mais il viendra au Seigneur. Et elle est morte dans cette certitude que son mari serait amené au Seigneur. Elle ne l'a pas vu. Mais le jour de son enterrement, mon grand-père s'est converti. Et il avait encore 15 ans, il avait 75 ans. Il s'est converti à 75 ans et il a vécu jusqu'à 90 ans. Il est mort dans mes bras. Alors, je l'ai vu, et j'ai vu ce que a été ces 15 années, ce qui lui restait à vivre. Hein. 15 ans, c'est quand même encore beaucoup. Et malgré qu'il avait toute espèce d'habitude, le tabac, l'alcool, tout cela a été banni de sa vie, sans qu'il ait besoin d'être dans les alcooliques anonymes. C'est le Seigneur qui fait son œuvre dans les cœurs. Et il a rompu avec tous ses amis du bistrot, parce qu'il aurait, pu retomber. Mais il a su fuir les tentations. J'ai eu l'occasion de lui parler assez souvent, et j'ai dit, mais grand-papa, ça a dû être terrible pour toi. Il me dit, oui, c'est vrai, mais j'avais qu'un moyen pour m'en sortir. Il disait, quand je passais devant l'auberge, j'avais soif. Automatiquement, il avait soif. Eh bien, il disait, j'allais plus loin. Je pressais le pas, puis une fois que j'étais loin, c'est fini la soif. Mais il faut savoir fuir la tentation. Mais si vous rôdez là autour, eh bien, vous entrerez. Vous trouverez un ami qui vous fait signe qu'il faut revenir là. Alors, on a dit de mon grand-père qu'il allait mourir, qu'il n'allait pas vivre longtemps, parce que quand on a un changement si radical, c'est la mort. C'est pas vrai. Il a vécu 15 ans. Il est mort à 90 ans. Alors, ne parlez pas des habitudes dont on ne peut pas se défaire. Le Seigneur nous donne une vie nouvelle. Et dans la vie nouvelle, nous avons d'autres habitudes qu'avant. C'est toute l'épître de Pierre qui nous dit cela. Avant, vous étiez cela, mais maintenant, c'est changé. Vous avez une autre manière de vivre parce que vous pensez autrement, c'est ça la conversion. C'est pas changer de religion, c'est changer de pensée, changer d'orientation, changer de vie. C'est un changement intérieur. Alors ne vous laissez troubler par aucune crainte, mes sœurs, quant à la certitude que votre mari, celui pour lequel vous priez, sera amené. Et si même vous devez souffrir, c'est dans le programme. Vous acceptez la souffrance, pourvu que le Seigneur agisse dans ces temps. Et je vous ai parlé de Madame Morin, je crois que le Seigneur est en train d'agir, mais elle a dû souffrir. Elle a accepté ses souffrances. Et ça n'a pas été rien. Alors verset 7, maintenant c'est les maris. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je pense que vous comprenez cela tout seul. Comme avec un sexe plus faible. Oh, mais il y en a qui ne veulent plus admettre ça. C'est maintenant les hommes qui sont de sexe faible. Le sexe fort. C'est les femmes pompiers. N'est-ce pas ? On en parle à Montréal. N'est-ce pas? Elles devront aller dans les douches des hommes, d'après un des chefs des pompiers, puisqu'elles veulent faire ce travail-là. Moi, j'ai rien contre. Mais, si nous sommes mariés, nous devons quand même avoir des égards pour notre femme. Honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Nous sommes sur le même plan quant au salut. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est Galates chapitre 3. Il n'y a plus ni homme ni femme quant au salut. Mais quant au sexe, c'est toujours des sexes différents. Et alors, il faut en tenir compte. Et les tâches sont aussi différentes. Et la femme, elle donne vraiment son maximum quand elle est dans la tâche que Dieu lui a départie. Et pour elle aussi, sa tâche est un sacerdoce. Alors verset 8, encore la fin du verset 7, qu'il en soit ainsi, pourquoi ? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dans un vrai couple, eh bien, il y a une vie de prière entre l'homme et la femme. Et il y a une promesse pour la prière à deux. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite par
notre Père des cieux. Et je pense spécialement à la conversion de nos enfants. Et quand le Père et la Mère sont d'accord et prient ensemble pour leur enfant, c'est une bénédiction. Les prières d'un Père, les prières d'une Mère. Et quand on est Père et Mère chrétien, eh bien, on cherche à ce que nos enfants naissent combien de fois ? Deux fois. Et il n'y a rien de plus beau que des naissances dans la famille, naturelle, quand le père et la mère sont au Seigneur et peuvent ensuite dire, eh bien, nous avons mis au monde nos enfants deux fois, hein, pour le monde spirituel. J'ai connu une femme qui m'a dit, bien, tous mes enfants, elle en avait six, ils se sont convertis avec moi. Et sont tous au service du Seigneur. C'est quelque chose, ça. Elle a accompli un sacerdoce. Alors, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Quels sentiments ? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, si on a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes unis. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Vous avez là trois choses. L'amour fraternel, la compassion, parce que nous savons que le Seigneur a eu compassion de nous, que ses compassions à notre égard ne sont pas terminées. Et puis, le caractère du Christ qui était humble. Parce que si vous voulez être exaucé, qu'est-ce qu'il vous faut ? Si vous voulez que Dieu vous exauce, il faut s'humilier. À qui est-ce qu'il résiste ? Aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La condition pour être exaucé, c'est l'humilité. Alors, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Qui est-ce qui nous a donné un exemple ? C'est Jésus. Alors, reprenez la fin du chapitre 2 et vous verrez quel exemple le Seigneur nous a donné. Il a accepté toutes les souffrances pour nous amener à Dieu. Il a tout souffert. C'est pas par sa vie et par ses paroles que Jésus nous a sauvés. C'est par quoi ? C'est par sa mort. Il faut bien comprendre cela. Sans la mort de Jésus, eh bien, nous aurions les paroles de Jésus, mais ces paroles ne nous sauvent pas. C'est sa mort qui nous sauve. Et c'est cela que nous devons comprendre. Et alors, sauvé par sa mort, et qui a été précédé de quoi ? De ses souffrances. Il nous a aimés au point d'accepter de tout souffrir pour nous et de souffrir la mort. Et quelle mort ? La mort de la croix. C'est ce que nous avons. Alors, nous avons cela comme exemple. Eh bien, nous, croyants maintenant, nous devons comprendre que si nous sommes des prédestinés, c'est pour suivre Jésus dans sa mort. Et c'est par notre mort, peut-être, que les gens vont être sauvés. Ne tenez pas tellement à vivre longtemps. Mais demandez au Seigneur que votre vie ou votre mort soit un tel témoignage que des âmes soient sauvées. Soit par votre vie qui les pousse vers le Seigneur, parce que votre vie c'est envie, et on a envie, en vous voyant vivre, d'avoir votre foi, soit par votre mort, parce que la mort d'un chrétien doit être à la gloire de Dieu. L'apôtre Pierre, justement, avait bien compris cela. Parce que Jésus lui avait dit, il lui avait annoncé de quelle mort il allait le glorifier à la fin de son existence. Dans le chapitre 21 de Jean, Pierre avait reçu un message du Seigneur, lui disant qu'à la fin de sa vie, il serait conduit là où il ne voudrait pas aller, un autre le soignerait, et le conduirait où il ne voudrait pas aller. Et il lui indiquait de quelle mort il allait glorifier son Dieu. Et Pierre savait que sa mort serait à la gloire de Dieu. La tradition raconte qu'il a été crucifié sous Néron et qu'il a demandé, il aurait demandé d'être crucifié la tête en bas parce qu'il se sentait indigne d'être crucifié comme le Seigneur l'avait été. Ça, je mets un point d'interrogation, mais enfin, c'est possible. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que Pierre serait mort dans les persécutions de Néron. Mais vous savez que ces persécutions de Néron, qui avait mis le feu à Rome, hein, puis qui a voulu faire passer son crime sur les chrétiens, il fallait bien trouver un bouc émissaire, eh bien, au lieu d'anéantir le christianisme, qu'est-ce que ces persécutions ont fait? Ça a multiplié les conversions. De sorte que, comme Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, tombe en terre ne meurt, il demeure seul, donc c'est par sa mort qu'il y a eu des épis, qu'il y a eu une moisson, qu'il y a eu des suites, eh bien, par notre mort aussi, par les persécutions, et je pense qu'en Chine et ailleurs dans ces pays derrière le rideau de fer, eh bien, les persécutions qu'il y a eu ont amené au Seigneur beaucoup plus d'âmes que toutes nos réunions à grand tapage d'évangélisation. Vous pouvez être sûr de cela. Sans argent, sans demande toujours d'argent pour financer nos grandes missions, eh bien, derrière le rideau de fer, les témoignages individuels des croyants ont amené une multitude de gens au Seigneur. Mais nous n'en savons rien, hein, maintenant. Mais là où il y a une certaine libération au point de vue religieux, eh bien, on voit des églises absolument vivantes. Ce sont des églises qui ont passé par la tribulation. C'est la société de consommation qui est l'été noir de la vie spirituelle des chrétiens. Tandis que dans la persécution a toujours été une semence. Et le diable s'est complètement trompé quand il a cru anéantir l'Église par les persécutions. Alors nous devons bien comprendre cela. Nous sommes identifiés au Seigneur, comme le Seigneur a tout souffert pour nous sauver, nous aussi, chrétiens, nous devons être prêts à tout souffrir pour le salut des impies, pour le salut de ceux qui ne croient pas. C'est là notre mission, c'est là notre tâche, c'est peut-être là notre évangélisation, en tout cas, c'est notre sacerdoce. Mais nous devons mettre notre mort dans le programme, une mort qui glorifie le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous devons chercher à lui être agréable. Et alors, verset 9, « Bénissez au contraire quand on vous injurie, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Notez ces mots, n'est-ce pas? À quoi avez-vous été appelés? Vous avez été appelés à souffrir. Vous avez été appelés, eh bien, à connaître des injures, et vous êtes appelé à bénir ceux qui vous injurient. C'est tout à fait le serment sur la montagne, afin d'hériter la bénédiction. Et puis là, vous avez le secret d'une vie heureuse, qui est une citation d'un psaume, le psaume 34, versets 13 à 16. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. » Et vous aurez remarqué combien de fois il est question de faire le bien dans cet épître de Pierre. Qu'il recherche la paix et la poursuit. Et ce merveilleux verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Vous ne voyez pas la chose tout de suite, mais vous pouvez être sûr que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tôt ou tard, leur folie sera manifeste, comme le dit Paul à Timothée. Mais les yeux du Seigneur sont sur les justes.
Est-ce que ça ne vous suffit pas?
Tes yeux sont sur moi, Seigneur. Tes oreilles sont attentives à mes prières. Je le sais. Quand il m'exaucera, ça, c'est pas mon affaire. L'heure de Dieu est toujours la meilleure. Quand on a compris cela, on peut attendre. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Nous n'avons pas à craindre les hommes. Pourquoi est-ce que nous craindrions les hommes? Je me souviens toujours de cette phrase de ma belle-mère elle a été dans l'occupation en Chine, l'occupation des Japonais, et je me souviens d'une personne qui lui disait, mais est-ce que vous n'aviez pas peur? Il me dit, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire? Le plus qu'ils pouvaient nous faire, c'est de m'envoyer vers le Seigneur. Hein? C'était ça. Le Seigneur était une personne réelle. Et pour elle mourir, c'était aller où? C'était aller vers le Seigneur. Mais l'épée des Japonais ou je ne sais pas quoi, leur baïonnette, peu importe. C'est pas ça qu'il est. Elle n'avait pas de crainte. C'est ça la foi pratique. N'ayez d'eux aucune crainte. Et à vous défendre. La seconde, je n'aime pas cette traduction. Soyez toujours prêts à répondre. Avec douceur et crainte ou respect à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Les gens doivent savoir que nous avons une espérance. Ils doivent se rendre compte que nous avons un secret, que nous sommes des gens heureux, indépendamment des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Paul dit, j'ai appris à être content dans les circonstances dans lesquelles je me trouve. Lorsqu'il parle justement de ce sacrifice que les Philippiens lui ont accordé en lui faisant un don matériel. Mais il dit, ce n'est pas pour vous demander quelque chose, mais j'ai appris moi à être content dans les circonstances dans lesquelles je me trouve. Mais sanctifiez donc le Seigneur dans vos cœurs, étant toujours prêt à répondre avec douceur et crainte de la raison de l'espérance qui est en vous. C'est cela, ce n'est pas assassiner les gens en voulant leur témoigner absolument, alors qu'ils ne sont pas du tout intéressés. Mais ils seront intéressés par votre vie. Il faut que notre vie questionne le monde, qu'on vous demande la raison de l'espérance. Qu'est-ce que vous avez, vous, pour être différent des autres? Alors vous pouvez répondre avec douceur. Avec humilité. Mais ma raison, c'est que Jésus est dans mon cœur. Je suis habité par quelqu'un d'autre. Vous êtes habité par le Seigneur. Vous avez le Père de gloire. Vous avez le Seigneur de gloire. Vous avez l'Esprit de votre Père qui est l'Esprit de gloire. Et alors, en ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, parce que c'est ce qui arrive quand on est au Seigneur, on dit toute espèce de mal contre nous, peut-être, eh bien, ceux qui vous décrivent, qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. C'est ce qu'il y a. Nous n'avons pas besoin de nous défendre. Suivez le Seigneur. Il est dit, quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. J'aime beaucoup ce verset. Je n'ai pas besoin de m'occuper de mes ennemis. Ceux qui veulent me décrier, bien qu'ils me décrivent. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est que je plaise au Seigneur. Ce que les gens disent, ils en seront responsables. Ils auront à répondre de toutes les paroles qu'ils ont dites. Ça, c'est pas mon affaire, c'est la leur. Ils prennent de grandes responsabilités. Mais moi, ce qui compte, c'est que je plaise au Seigneur et que j'ai l'approbation du Seigneur dans ma conscience et dans ma vie. Car il vaut mieux souffrir
si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il est possible que ce soit la volonté de Dieu que nous passions par la souffrance. Alors, est-ce que vous serez révolté contre la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Paul nous a appris? La volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. C'est des fois difficile d'admettre que cette volonté de Dieu est agréable quand on passe par l'épreuve et qu'elle est parfaite. Mais elle est agréable dans le sens que, puisque ça plaît à Dieu, il plut à Dieu de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. Voilà ce que nous dit Ésaïe 53. Eh bien, s'il lui plaît de nous meurtrir, nous l'adorons et nous le bénissons. Mais il est question de faire le bien. Alors, l'exemple que nous avons tout le temps devant les yeux, c'est Christ. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. C'est une fois pour toutes. Vous pourrez reprendre ce thème d'une fois. Il a souffert une fois pour les péchés. Lui, le juste, pour des... Est-ce que c'était pour lui qu'il souffrait? Non, c'était pour nous. Alors, si Jésus nous a donné cet exemple de souffrir pour nous, est-ce que nous, nous ne souffrirons pas pour les autres? C'est à ça que nous sommes appelés. Vous devez accepter la dimension de la souffrance dans votre vie chrétienne. Il n'y a pas de témoignage en dehors de la souffrance. C'est par la souffrance, c'est par les souffrances que Jésus, en tant qu'homme, a été amené à la perfection. Je dis en tant qu'homme. Eh bien, nous aussi, c'est par les souffrances que le Seigneur nous perfectionne. En dehors de la souffrance, il n'y a pas de perfection. Je ne le crois pas. C'est la souffrance qui nous façonne. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et c'est vrai, hein, son corps a été meurtri, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et alors c'est là que vous avez ce fameux verset qui est, semble-t-il, un des plus difficiles à comprendre, où il y a toute espèce de définition de ces versets, alors qu'ils sont des versets peut-être difficiles. Mais il ne faut pas les isoler. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment avez-vous compris ce verset? Donc, rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui sont ces esprits en prison? C'est les esprits des morts, hein, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. C'était quand? Alors, ça nous est indiqué au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, qu'est-ce que Dieu a donné au temps de Noé, au monde qui vivait dans la corruption et qui vivait dans l'injustice? Parce que les jours de Noé, c'était des jours de corruption et d'injustice. La violence et la corruption étaient sur la terre, au jour de Noé. Et pourquoi est-ce que Pierre, qui nous parle de la fin des temps, parle de Noé? Parce qu'à la fin des temps, il en sera comme au jour de Noé. C'est la même chose, n'est-ce pas? Et Noé est appelé dans le chapitre 2 de la deuxième lettre, un prédicateur de justice. Et Noé a prêché pendant combien de temps à ses contemporains? Pendant 120 ans. Et Dieu a attendu 120 ans que ces gens se convertissent. Il leur a fait grâce pendant 120 années. Et alors que le jugement allait venir sur la terre, qui était annoncé, et Noé l'a annoncé, Dieu avait donné à Noé un moyen de sauver les âmes auxquelles il prêchait. C'était quel moyen? L'arche. Il a construit l'arche pendant 120 ans. Et qu'est-ce qu'on a pensé de lui? Qu'il était fou. On ne l'a pas cru.
Et qu'est-ce qui a été sauvé en définitive? Les animaux. Hein? Les animaux ont été sauvés, les animaux ont compris, parce que les animaux n'ont pas renié le Créateur. Les animaux sont venus vers l'arche. Mais les hommes ont regardé, mais ne sont pas entrés. Ils se sont moqués. Dieu a attendu pendant 120 ans. Et quel était l'esprit qui parlait en Noé, d'après ce que vous avez lu au chapitre 1er? C'est là qu'il faut vous en souvenir. C'était l'esprit de Christ qui était en Noé. C'était l'esprit de Christ qui était dans les prophètes. Avant son incarnation, ces hommes comme Enoch, comme Noé, ont été des prédicateurs de justice. Ils ont prêché le salut aux contemporains, à leurs contemporains. Mais qui est-ce qui est entré dans l'arche? Seulement 8 personnes. Un petit nombre. Alors, voilà, Saint Augustin, c'est la théorie qu'il a sur ces fameux versets. Parce que Saint Augustin ne croyait pas à un salut possible pour les morts. Alors, vous, comment est-ce que vous voyez ces choses? Vous savez que dans le symbole des apôtres, le cinquième symbole, c'est que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, et puis il est descendu aux enfers. Alors, ici, c'est sur ce verset que se base, n'est-ce pas, la descente du Christ aux enfers. Son corps, puisqu'il est mort selon la chair, n'est-ce pas, eh bien, son corps a été mis dans le tombeau, mais il était vivant dans son esprit, et qu'est-ce qu'il a fait entre le moment de sa mort et sa résurrection? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait été prêché aux morts, n'est-ce pas, aux enfers. C'est le mot latin, inferno, mais le mot, le séjour des morts dans l'Ancien Testament, c'est appelé le Sheol, et qui correspond au mot grec dans le Nouveau Testament, le Hadès. Alors, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un mourait, comme des croyants, comme Jacob, comme Abraham, ils allaient dans le séjour des morts, hein, qui était un lieu de repos, mais on ne savait pas grand-chose là-dessus. Ils étaient recueillis vers leur peuple. Il semble qu'ils étaient dans le repos, mais c'était un lieu d'ombre, ce qu'on a appelé les limbes. Et alors, on dit, en se basant sur ce verset, que quand Jésus est mort, son corps était dans le tombeau, mais son esprit est allé dans le séjour des morts, et qu'est-ce qu'il aurait fait là? Est-ce qu'il aurait annoncé l'évangile? De sorte qu'il y aurait une possibilité de salut pour toutes ces âmes? Qu'est-ce que vous pensez? Ça pourrait nous plaire, hein, de se dire qu'il y a une possibilité de salut après la mort. Mais selon l'Écriture, l'ensemble de l'Écriture, est-ce qu'il y a une possibilité de salut pour nous après la mort, si nous avons entendu l'Évangile? Non. Alors donc, ça ne peut pas être cela. Alors nous abandonnons cette interprétation. Mais si c'est vrai que le Seigneur est descendu, alors qu'est-ce qu'il aurait fait dans le séjour des morts? Il aurait proclamé ça, victoire. Car qui était le prince de la mort et qui tenait les âmes dans la captivité? C'était Satan. Et Jésus avait annoncé que il allait entrer dans le pouvoir de la mort et lier l'homme fort et libérer les captifs de l'enfant. Alors, vous avez d'autres versets qui pourraient souligner cette interprétation. Dans Éphésiens, chapitre 4, il est dit que le Seigneur étant monté en haut, on va lire le verset, hein. C'est un passage difficile, mais il n'est pas... Il ne nous est pas donné sans lumière quand même. Verset 7. du chapitre 4. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, c'est un psaume qui est cité, hein, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Quelles seraient ces régions inférieures? Le séjour des morts. Donc, il est possible que le Seigneur, entre sa mort et sa résurrection, soit descendu dans le séjour des morts pour y libérer qui? Ceux qui étaient captifs, les croyants de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancienne Alliance. Alors, Jésus ayant tout accompli sur la croix, tous ceux qui sont morts avant la croix, mais qui avaient mis leur confiance dans le libérateur qui allait venir, apprennent maintenant que l'œuvre est accomplie, et Jésus entre dans le séjour des morts et annonce son triomphe, sa victoire totale, alors que Satan croyait avoir anéanti le Seigneur, il ne l'avait blessé qu'au talon, selon la prophétie de Genèse 3:15, mais le Seigneur, en mourant, a écrasé la tête du serpent, et il a libéré tous les captifs et les a conduits au paradis. De sorte que, désormais, dans le Nouveau Testament, vous avez une notion du paradis qui est le lieu du séjour, de la lumière et de l'amour, où se trouvent les âmes qui attendent maintenant la résurrection. Jésus ne serait pas remonté seul, mais il a emmené captive, ce qui est dit là, la captivité. Ce qui retenait les captifs, eh bien, il les a emmenés, de sorte que Paul peut dire que pour lui, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain, car être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Voilà une des interprétations qui est donnée. Et on peut prendre aussi un verset qui est très, très beau et très, très clair, dans le chapitre 5 de Jean. Je sais que tout le monde ne voit pas cela de cette manière, mais dans le chapitre 5 de Jean, il est parlé, c'est Jésus lui-même qui enseigne cela. Comme je vous ai dit au chapitre 12 de Matthieu, il annonce qu'il doit entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens. L'homme fort, c'est Satan. Et il l'a vaincu. Mais dans le chapitre 5 de Jean, au verset 24, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Parce que nous étions morts spirituellement. Alors, ceux qui entendent la parole du Seigneur et qui la croient, qui la reçoivent, ils sont passés de la mort spirituelle à la vie. Et puis, le verset suivant, que certains appliquent au verset 24, alors que je pense qu'on peut l'appliquer à une autre catégorie. Verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, c'était l'heure où il était sur la terre, où les morts, alors là, ce seraient les morts physiques, qui sont dans la mort, hein, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et quand est-ce qu'ils l'auraient entendu? À la mort de Jésus, hein, quand Jésus est entré dans la mort. Les morts qui s'y trouvaient, mais qui étaient morts dans la foi, ont entendu la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ils ne sont pas encore ressuscités, mais ils vivent déjà avec le Seigneur. Il est monté en haut et il a emmené des captifs de sorte que c'est le paradis pour eux, comme il l'avait dit aux brigands. En vérité, je te dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Nous avons maintenant dans le Nouveau Testament des notions beaucoup plus claires sur la vie dans l'au-delà, en attendant la gloire, en attendant la résurrection. Puis ensuite, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient ou tous ceux qui sont dans les sépulcres, alors ça, c'est la résurrection des corps. Tandis que, dans le premier verset, c'est l'esprit qui est auprès du Seigneur. Là, c'est la résurrection des corps. Ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. Et alors, là, il y a deux résurrections. Ceux qui ont fait le bien ressuscitent pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitent pour le jugement. Ah, mais Élie et Moïse, c'est des exceptions. Enfin, et Élie en particulier, il n'a pas passé par la mort. Comme Enoch, comme il y a une génération qui ne passera pas par la mort. C'est celle qui sera enlevée au moment du Seigneur. Et ce sont des exemples, justement, qu'on peut entrer dans la gloire sans passer par la mort, par l'opération de ce pouvoir que Jésus a de s'assujettir toutes choses. Alors, vous voyez, on pourrait méditer longuement, mais demander au Seigneur qu'il vous montre ce qui en est. Mais en tout cas, il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas une possibilité de se convertir une fois qu'on est dans le tombeau. De sorte que si Jésus est vraiment descendu là, eh bien, il est descendu pour proclamer sa victoire. Et la victoire aux croyants de l'Ancien Testament qui étaient morts dans la foi en sa venue. Mais je pense qu'on peut aussi retenir que les gens, cette catégorie de personnes du temps de Noé, ont eu la possibilité de se convertir. Ils ont eu la possibilité d'être sauvés. Et ils pouvaient être sauvés s'ils entraient dans l'arche. Comme nous, nous sommes sauvés si nous croyons à quel bois, non pas au bois de l'arche, mais au bois de la croix. Alors, eux ont été sauvés à travers l'eau, et là, il est donné cet exemple du baptême. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, c'est pas l'effacement de la tache originelle, le baptême. Mais c'est l'engagement ou la demande à Dieu d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve. Quand dans notre cœur nous avons pris vraiment cette décision d'appartenir au Seigneur, nous nous laissons sauver par lui, alors nous savons que nous sommes sauvés par la résurrection de Christ. Le baptême en lui-même est notre identification à sa mort. Et puis, la résurrection, alors, nous donne une vie nouvelle. Et c'est très important, nous allons y revenir demain, nous allons nous arrêter maintenant, parce que demain, nous allons reprendre ce thème du baptême et de la mort, parce que la mort de Christ, ça veut dire que nous aussi, nous sommes morts. Alors, est-ce que le mort vit dans le péché ? C'est pas possible. Si réellement nous appliquons la mort, nous avons une puissance contre le péché. Et si nous acceptons les souffrances, eh bien les souffrances vont nous garder du péché. Parce que quand on souffre, on n'a pas le temps de pécher. Vous pouvez être certain, si vous êtes dans la souffrance, c'est pas mauvais. Parce que vous êtes gardé du péché. La souffrance nous garde. Et alors la mort encore plus. Il est à la droite de Dieu maintenant, le Seigneur qui a triomphé, mais qui nous a donné l'exemple de la souffrance jusqu'à la mort. Il est à la droite de Dieu, il est allé au ciel, et les anges, et les autorités, et les puissances lui ont été soumis. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, on peut l'admettre, ça. Il y a la proclamation du salut pour les justes, hein, et puis la proclamation du jugement pour ceux qui sont morts dans l'incrédulité. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que personne n'aura été condamné s'il n'a pas entendu l'évangile, d'une façon ou d'une autre. Et vous pouvez être absolument tranquille qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu ne condamnera pas ceux qui n'ont pas entendu. Il y a des jugements qui sont différents pour les uns et pour les autres dans le chapitre 2 des Romains. Mais donnons toute gloire au Seigneur et puis que nous puissions nous endormir ce soir en ayant cette vision du Seigneur qui a tout souffert. Lui, la fin du chapitre 2 et puis méditer encore sur ce chapitre 3, sur le triomphe du Christ qui n'est pas seulement mort sur la croix, mais qui est descendu dans le tombeau et qui a proclamé sa victoire aux élus. Dieu notre Père, nous voulons te bénir de ce que nous arrivons à la fin de cette journée et nous te demandons que le repos de cette nuit nous renouvelle les uns et les autres et que nous puissions nous intéresser de plus en plus à ta parole, et même si nous y rencontrons des difficultés, des passages obscurs, que nous ne nous décourageons pas, mais que nous nous attendions à toi pour recevoir davantage de lumière, et que nous marchions déjà dans l'obéissance, selon les lumières que tu nous as déjà communiquées. Tu nous dis que tu as encore beaucoup d'autres choses à nous dire, mais que nous ne sommes peut-être pas capables de les supporter maintenant. Mais tu nous promets de nous les révéler dans la suite, que nous puissions vivre dans cette attente en te louant et en te bénissant. En Jésus. Amen.